Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse des Nations Unies. Comme chaque mercredi au cours de cette conférence des Nations Unies, nous vous donnerons des informations sur les activités des composants de la MONUSCO, les informations aussi sur l'équipe pays. Pour la partie développement, Geneviève Delenoy nous fera une présentation de ces informations sur les questions de développement. Pour l'humanitaire, nous avons Sylvestre Toumba Moudigaï qui nous fera une synthèse de l'actualité humanitaire en RDC cette semaine. Le colonel Félix Prosper Basse nous présentera donc un point sur l'actualité militaire en RDC. Voilà donc pour les grands titres de cette conférence de presse des Nations Unies que nous commençons tout de suite avec les activités des composantes de la MONUSCO. Appui à l'administration pénitentiaire. En collaboration avec des partenaires, l'équipe de la section d'appui à l'administration pénitentiaire a poursuivi les activités visant à améliorer l'infrastructure pénitentiaire au moyen des projets à impact rapide. Le 4 novembre, l'équipe d'appui à l'administration pénitentiaire basée à Kalemi a effectué une mission conjointe avec les autorités locales et le bataillon béninois à la prison centrale de Moba dans le cadre de la cérémonie marquant l'achèvement du projet de réhabilitation de cette prison. Celle-ci dispose maintenant de quartiers séparés prévus pour les femmes, les hommes et les enfants. Les clés de la prison ont été officiellement remises au commissaire du district. Par ailleurs, à la prison d'Ouvira, le comité international de la Croix-Rouge a entamé la rénovation des dortoirs des prisonniers, l'installation de volets de ventilation, ainsi que la construction d'un réservoir d'eau pour régler les problèmes de pénurie persistante d'eau dans cette prison. Section genre de la MONUSCO, le bureau genre de la MONUSCO Kisangani a participé le 4 novembre à une séance de travail relative à une campagne de sensibilisation pour l'enrôlement des jeunes filles dans la police nationale congolaise. L'objet de la réunion était de préparer des messages forts de sensibilisation tout en identifiant les agglomérations à sensibiliser ainsi que l'identification des équipes de travail pour la sensibilisation de proximité. La campagne vise aussi à inciter les jeunes filles des districts de Lituri, Tchopo, Bazuele et Otuele à se faire enrôler massivement dans la police et les FRDC au prochain enrôlement. A noter que ce genre de sensibilisation a déjà été mené en 2013, ce qui a ramené le pourcentage des femmes pendant le recrutement de 2014 à 9%. Par rapport aux années passées, le pourcentage était seulement que de 2%. Le 5 novembre dernier, le bureau genre, en collaboration avec le bureau diocésain chargé du genre et des experts en genre du gouvernorat, ainsi que du ministère provincial du genre, ont tenu donc une séance de travail à Kisangani. Cette journée a permis de réfléchir ensemble sur le phénomène corvée imposé aux élèves filles des écoles primaires et secondaires du territoire de Baniala. Le constat a été fait lors de la mission de sensibilisation effectuée par le bureau de Césin en charge donc du genre et ainsi que l'UNICEF dans ce territoire. C'est-à-dire, il est observé que depuis un certain temps, les enseignants des écoles primaires et secondaires utilisent les élèves filles de ces localités pour des travaux champêtres privés en lieu et place des enseignements des travaux manuels. Dans de telles circonstances, les filles se retrouvant dans des zones isolées, exposées à des risques de viol et soumises à la maltraitance, selon le rapport de la mission de service provincial genre. Signalons que les investigations sont en cours pour trouver une solution durable à ce fait, qui commence à se répandre dans plusieurs territoires périphériques à Kisangani. Par ailleurs, le bureau genre de Goma a formé 25 nouveaux éléments de la police MONUSCO UNPOL, dont 5 femmes de nationalités différentes entre le 31 octobre et le 11 novembre dernier sur les questions de genre, de gender mainstreaming, ainsi que des principes directeurs qui préparent d'une manière opérationnelle les policiers intervenant dans les missions de paix et de sécurité, dans les opérations tactiques et stratégiques. Voilà tout pour les informations concernant les composantes de la MONUSCO. Nous passons tout de suite à l'équipe pays. Dans un premier temps, Geneviève Delenoy va nous présenter donc les informations développement. Bonjour Geneviève.
Bonjour Charles. Alors tout d'abord, on commence par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Au cours d'un atelier sur le wilt bactérien du bananier, organisé par la FAO à Kisangani en province orientale, 30 experts se sont réunis, parmi lesquels des chercheurs, des inspecteurs provinciaux en charge de vulgarisation, des représentants des producteurs de bananes et des décideurs politiques. Ensemble, ils viennent d'établir une feuille de route sur la lutte contre cette maladie. Alors, le wilt bactérien se manifeste entre autres par le mûrissement et la pourriture prématurée des régimes de bananes. Il attaque indistinctement toutes les variétés de bananes cultivées en réduisant sensiblement leur potentiel de production. Outre la feuille de route pour lutter contre cette maladie, les experts ont également rédigé un document de sensibilisation qui servira de support de plaidoyer auprès de différentes autorités, tant nationales que provinciales, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Cette activité a été réalisée en vue de répondre à l'alerte lancée le 11 septembre 2014 par les autorités de la province orientale qui avaient mis en évidence les dégâts causés par cette maladie du bananier dans 8 territoires des districts de l'Ituri et de la Tshopo et qui met en péril la sécurité alimentaire et le revenu des ménages agricoles. L'atelier d'experts s'inscrit dans le cadre du projet régional intitulé « Risques pesant sur la sécurité alimentaire dans la région des Grands Lacs, réponse rapide à la menace de la maladie de la banane ». Ce projet est financé par le Royaume-Uni, la Belgique et couvre 5 pays, à savoir l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et la RDC. FAO encore, 300 experts en sécurité alimentaire et nutrition de l'Union africaine, du NEPAD, des universités et centres de recherche et de la société civile venus de l'ensemble de l'Afrique ont appelé à la mise en œuvre d'un programme global soutenu par des politiques nationales saines qui doivent cibler les populations pauvres, affamées et mal nourries, à savoir notamment les enfants, les femmes enceintes, les ménages dirigés par une femme, les jeunes, les petits exploitants, les éleveurs. Cet appel a eu lieu à l'occasion de la célébration à Kinshasa de la 5e journée africaine de la sécurité alimentaire et la nutrition, CHASAN, organisée conjointement par la Commission de l'Union africaine, le NEPAD, le gouvernement de la RDC et les agences du système des Nations Unies. Le thème était « Accélérer les actions pour une Afrique libérée de la faim ». Le JASAN est un outil de sensibilisation, de plaidoyer, de partage d'informations et de communication. C'est aussi une plateforme politique pour matérialiser l'engagement des dirigeants africains à renverser la tendance qui empêche les pays africains d'atteindre l'objectif de l'Assemblée mondiale sur la santé à l'horizon 2015. Cour pénale internationale. Aujourd'hui, mercredi 12 et demain, jeudi 13 novembre, se déroulent les déclarations de clôture dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo. Pendant 2 jours, la défense, le procureur et le représentant des victimes présenteront leurs conclusions orales devant la chambre de première instance 3 de la Cour pénale internationale. Pour rappel, Jean-Pierre Bemba est accusé en qualité de chef militaire de 2 chefs de crimes contre l'humanité et de 3 chefs de crimes de guerre durant des faits ayant eu lieu en République centrafricaine entre 2002 et 2003. Les déclarations de clôture peuvent être suivies sur le site de la Cour pénale internationale de 9h30 à 16h. Toujours à propos de la Cour pénale internationale, hier, mardi 11 novembre, dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba et consorts, la Chambre préliminaire 2 de la Cour pénale internationale a confirmé en partie les charges d'atteinte à l'administration de la justice à l'encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo, d'Aimé Kilolo Muzamba, de Jean-Jacques Magenda Kabongo, de Fidel Babala Wandou et de Narcisse Arido. La Chambre a également rejeté la requête de la défense aux fins d'arrêt des procédures. La Chambre a renvoyé les 5 suspects en procès. Ces derniers peuvent encore interjeter appel. Un communiqué de presse détaillant la décision sera disponible à la fin de cette conférence de presse. Toujours à propos du droit international humanitaire, sachez que le Centre international pour la justice transitionnelle, ICTG, en coopération avec le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme et le Programme des Nations Unies pour le développement, organise aujourd'hui et demain une conférence de haut niveau à Kinshasa pour discuter des moyens de renforcer le système judiciaire congolais et sa capacité à enquêter et poursuivre les crimes graves tels que génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. De hauts représentants du gouvernement, de la magistrature, des ambassades, des bailleurs de fonds et des agences de développement ont discuté des progrès réalisés en RDC dans l'adoption de lois pertinentes et l'amélioration de la réponse judiciaire aux violations constantes contre les civils à l'est du pays. Une des recommandations de cette conférence sera de fournir un soutien et une orientation afin d'accélérer l'adoption de législations nécessaires dans la lutte contre l'impunité et de livrer un appui technique plus efficace au secteur judiciaire. On mentionne aussi les récents engagements pris par les forces armées congolaises contre les crimes de recrutement d'enfants et de violences sexuelles, qui devrait s'étendre également au pillage des ressources naturelles. Et je termine par un avertissement, une recommandation du PNUD qui signale qu'en RDC, des manœuvres frauduleuses et autres subterfuges sont utilisés par des personnes mal intentionnées et non autrement identifiées, proposant des emplois, des facilités de recrutement ou de stage, ainsi que des marchés émanant prétendument du PNUD ou de ses fonctionnaires. Le PNUD recommande vivement la vigilance aux personnes ainsi contactées et les invite à s'assurer impérativement de l'authenticité de ces offres ainsi que des documents y afférents avant d'y répondre en adressant directement leurs questions et préoccupations au PNUD. Le PNUD rappelle en outre qu'aucun paiement, don ou faveur n'est exigé de la part de candidats au stage ou à l'emploi ou de partenaires ou soumissionnaires. Les procédures de recrutement ou d'achat demeurent concurrentielles et publiques et sont toujours publiées sur le site officiel du PNUD et ou à travers les journaux de la place autorisés à cet effet. Le PNUD décline toute responsabilité pour les préjudices qui pourraient résulter de ces actes frauduleux. Les victimes ou témoins de ces tentatives d'escroquerie sont vivement encouragés à les dénoncer vigoureusement en saisissant les services de police locaux. Merci à tous. Merci Charles.
Merci Geneviève. La parole est à présent à Sylvestre Toumba Moudibaï qui va nous présenter donc des informations sur l'humanitaire et vous commencez je crois par des informations sur les dégâts causés ces dernières semaines, ces derniers jours en tout cas par les inondations qui ont frappé divers coins du pays.
Oui, effectivement, en cette période de saison de pluie, plusieurs territoires de la République démocratique du Congo sont frappés par des inondations. La communauté humanitaire a commencé à répondre à cette situation. Ainsi, plusieurs centaines de familles victimes des inondations fin octobre dans le territoire de Calais, nous sommes dans la province du Sud Kivu, ont commencé à recevoir de l'aide humanitaire. Plus de 550 familles ont bénéficié le 8 novembre de rations alimentaires d'un mois et 2000 enfants des biscuits énergétiques. Près de 1200 familles ont reçu des purifiants d'eau dans la localité de Rambira, où l'adduction d'eau a été détruite afin de limiter la propagation des maladies d'origine hydrique dans cette zone endémique du choléra. 653 familles ont bénéficié le 11 novembre, hier, des abris d'urgence et des articles ménagers essentiels. Il y a deux semaines, des pluies torrentielles dans la zone de Calais avaient occasionné la mort de 5 personnes et plus de 130 autres sont toujours portées disparues. Les intempéries, vous vous en souvenez, avaient détruit ou endommagé plus de 700 maisons et de nombreuses infrastructures de base, dont des écoles, des centres de santé, des routes et 3 microcentrales électriques. Des centaines d'hectares de champs ont été ravagés. Les localités les plus affectées sont les villages de Butchouchou, Chicheni, Nyambacha, Nyamukubi et Luzira. Depuis le début de cette année, au moins 32 personnes à travers la province du Sud Kivu sont décédées des suites des catastrophes naturelles et les risques demeurent élevés. En 2013, plus de 40 000 personnes avaient été affectées par les catastrophes naturelles au sud Kivu, dont 10 morts et 16 000 personnes déplacées. La communauté humanitaire du sud Kivu avait appuyé le gouvernement du sud Kivu à se doter d'un plan de contingence contre les catastrophes naturelles et accidents majeurs, ce qui a permis au gouvernement provincial de réagir rapidement à la situation de Calais en distribuant dès le 31 octobre des abris, des vivres et des articles ménagers essentiels en faveur de 150 familles sinistrées. En cette période de saison de pluie, d'autres provinces, je vous l'ai dit, sont également affectées par les inondations. Quelques 10 000 personnes sont affectées par les inondations dans le district de la Tchopo, dans la province orientale, où les territoires les plus touchés sont Banalia et Basoko. Dans la province du Nord Kivu, les territoires de Massissi et de Lubero ont aussi connu des dégâts suite aux intempéries.
Sylvestre, merci. Colonel Bass, bonjour.
Bonjour, Charles.
Comme d'habitude, vous nous faites le point de l'actualité militaire cette semaine à RDC. Quels sont les temps forts de cette actualité militaire cette semaine?
Donc nous commençons par l'ouest de la République démocratique du Congo, où durant la semaine écoulée, l'environnement sécuritaire a été jugé calme. En province orientale, les opérations conjointes MONUSCO et FRDC se poursuivent pour neutraliser les éléments résiduels de l'armée de résistance du Seigneur LRA, encore actifs dans les districts de Haut et Bawele. En Ituri, la pression militaire exercée par les forces armées de la République démocratique du Congo sur les éléments du Front de résistance patriotique de l'Ituri FRPI a conduit ces miliciens aux ordres de Cobra Matata d'initier depuis le 1er novembre 2014 des négociations avec les autorités congolaises en vue d'une future reddition volontaire. La force de la MONUSCO suit de manière très étroite les progrès liés à ce processus et se tient prête à apporter tout son soutien en vue de faciliter son déroulement. Toutefois, les miliciens réfractaires supposés appartenir au groupe armé précité continuent de commettre des exactions contre les populations civiles habitant les localités situées au sud du territoire d'Irumu. Au nord Kivu, le climat sécuritaire a été jugé volatile et imprévisible pendant la période sous examen du fait d'activités négatives des groupes armés dans certains territoires de la province. Il a été particulièrement marqué par des tensions entre les populations locales, les forces de défense et de sécurité congolaises et la MONUSCO dans le territoire de Beni. Cependant, l'environnement sécuritaire demeure sous le contrôle de la force de la MONUSCO et de l'armée congolaise. Dans les territoires de Beni, les militaires congolais engagés dans l'opération Sukola 1 soutenue par la force de la MONUSCO poursuivent sans relâche la traque menée contre les éléments résiduels de l'armée des forces démocratiques ADF, auteur de nombreuses exactions contre les populations civiles. En effet, des rebelles supposés appartenir à l'ADF ont, pendant la période sous examen, attaqué la localité d'Ontodo, située dans la région de Baungusha Luna, près de la province orientale, et tué 3 civils. Le 10 novembre 2014, aux environs de 17h30 à Beni, un groupe d'individus non identifiés, après avoir barricadé la route, s'est soudainement mis à jeter des pierres à hauteur de la localité de Ocha sur un convoi du contingent tanzanien de la brigade d'intervention, faisant mouvement de Mavivi vers Erengeti, obligeant les casques bleus à tirer en l'air pour disperser la foule hostile et agressive et poursuivre leur route. À cet instant, aucun blessé n'avait été signalé. Plus tard, après leur départ, les populations érigèrent des barricades le long de la route de Mbao, accusant les casques bleus du contingent tanzanien d'avoir ouvert le feu et tué un motocycliste. Le climat sécuritaire dans la région de Mbao demeure très tendu, certes, mais reste sous le contrôle des forces onusiennes et congolaises. Pour le moment, les investigations sont en cours et une cellule de crise a été activée à cet effet pour faire toute la lumière sur ce malheureux incident. Dans la ville de Goma, les forces de défense et de sécurité congolaises ont poursuivi leurs opérations conjointes dénommées Goma sans armes. Le 6 novembre 2014, selon la police onusienne, les troupes des FRDC et celles de la police nationale congolaise PNC ont, au cours de leurs opérations conjointes de bouclage et de ratissage, récupéré 91 armes AK-47, 3 grenades, 11 grenades lacrymogènes, des munitions et des uniformes. Une soixantaine d'individus ont également été appréhendés. Cette opération est considérée comme un développement positif dans les efforts visant à mettre un terme à l'insécurité dans la ville de Goma. Dans le territoire de Massissi, les troupes de l'armée congolaise soutenues par la force de la MONUSCO mènent des opérations de neutralisation des groupes armés actifs dans la région. Le 7 novembre 2014, Le colonel autoproclamé Kiba Bola, appartenant au groupe Mai Mai de l'Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain, APCLS, a fait reddition à Kachébéré avec 8 éléments de son groupe armé et remis 5 armes. Dans le territoire de Rutshuru, le 5 novembre 2014, les FARDC, en étroite coordination avec les troupes de la force d'Amonusco basée à Niamey-Lima, ont, au cours des combats à Muramba, situé à 10 km au sud de Niamey-Lima, délogé des éléments appartenant à un groupe armé non identifié, appréhendé un insurgé et récupéré une arme de type AK-47. Dans le territoire de Walikale, des efforts importants continuent d'être fournis par la force de la MONUSCO dans le but d'éradiquer les groupes armés actifs dans cette région, en l'occurrence le groupe Mai Mai Tchekan Douma Défense du Congo, NDC. À cet effet, le 10 novembre, la force de la MONUSCO a conjointement avec la section de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinsertion et réintégration DD3R largué 2000 tracts au-dessus des villages situés sur l'axe Kibwa Bunyampuli Mpofu Walikale, destiné à sensibiliser les éléments Tcheka NDC à se rendre auprès des troupes onusiennes et congolaises déployées dans ces régions. Du 5 novembre 2014 à ce jour, nous avons enregistré 23 éléments qui sont rendus aux troupes onusiennes déployées à Tongo Bunyampuli. Il s'agit de 1 des forces de libération du Rwanda, 3 du groupe Mai Mai Tcheka Défense du Congo, 9 du groupe Mai Mai de l'Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain APCLS, 5 du groupe Mai Mai Nyatura et 5 du groupe Mai Mai Rahia Mutomboki, faction Ntoto. Au sud Kivu, les forces onusiennes et congolaises maintiennent l'environnement sécuritaire sous leur contrôle en conduisant des opérations conjointes contre les groupes armés. Les FRDC, soutenus par la MONUSCO, ont au cours d'opérations vigoureuses lancées depuis le 4 novembre 2014 contre les positions des groupes Mai Mai, Rahia Mutomboki, Kikuni, Patoule et Hamakombo, engrangé plusieurs succès militaires. Ainsi, 4 éléments Mai Mai Kikuni ont été tués et le chef rebelle Hamakombo appréhendé. Il faut noter que ce chef rebelle a été impliqué dans plusieurs attaques contre les troupes FRDC au mois d'août 2014 dans cette province du Sud Kivu. Le Katanga, quant à lui, a été caractérisé par des opérations menées par les troupes de l'armée congolaise contre les groupes armés, ainsi que par des activités négatives perpétrées par les milices dans cette province. La section des affaires civiles de la MONUSCO a fait état de 2 accrochages violents ayant opposé le 5 novembre 2014 les FRDC au Mai Mai dans le territoire de Mitwaba à Musumani, qui fut un ancien bastion de cette milice. Il est situé à 18 km au nord de Mitwaba et à Kiakaba, 14 km au nord de Mitwaba, au cours desquels plusieurs rebelles ont été tués, 3 soldats FRDC blessés, 4 armes et des flèches récupérées. Ces affrontements ont bien entendu provoqué le déplacement des populations civiles en quête de sécurité vers la brousse. Suite à l'intensité des combats, les miliciens aux ordres de Sompi, l'un des commandants en second du chef rebelle Gédéon Mutanga, ont abandonné Musumani et se sont réfugiés dans la région située à 7 km en direction du territoire de Malemba Nkulu. Le 6 novembre 2014, un policier de la PNC a été tué, un autre blessé ainsi que 3 vigiles d'une société de gardiennage par des éléments d'un groupe armé non identifié au cours d'une attaque menée contre un sous-commissariat de la PNC. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital Don Bosco pour des soins médicaux. Le secteur 2, quant à lui, est très calme. Et enfin, concernant les statistiques de nos patrouilles, nous en avons mené 2359 armées, dont 640 nocturnes, et avons fourni 55 escortes pendant la période sous-examen. Je vous remercie de votre attention.
Colonel Basse, merci. Avant de passer à la séance questions-réponses, comme vous le voyez, le général Abdallah Wafi nous a rejoint pour cette conférence de presse. Vous avez eu un agenda chargé, général Abdallah Wafi, d'intenses visites de terrain, notamment une sortie sur Beni, je crois, et puis il y a la visite aussi de la délégation des Nations Unies de New York, ici même sur le terrain à RDC. Ils étaient dans l'Est, ils sont maintenant à l'Ouest, ici à Kinshasa. Pouvez-vous nous faire rapidement une synthèse avant qu'on ouvre cette séance de questions-réponses?
Merci Charles. Mesdames et messieurs, bonjour. Effectivement, sur le plan, en ce qui concerne la visite de la délégation de haut niveau qui est venue de New York et qui a pour objectif de procéder à la revue stratégique de la mission de la MONUSCO, elle a commencé sa visite par l'Est, par des visites de terrain, notamment à Shabunda, à Bunia, Kalemie, Beni Lubumbashi. Depuis deux jours, cette délégation est ici à Kinshasa où l'ensemble de la délégation et les responsables de la MONUSCO ont eu des séances de travail au ministère des Affaires étrangères, regroupant les ministres des Affaires étrangères, le vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale, le ministre de l'Intérieur, la ministre de la Justice et d'autres hauts responsables militaires et policiers de la RDC. Au cours de ces rencontres, il y a eu des échanges extrêmement importants, fructueux, qui vont permettre la rédaction du briefing que cette délégation, à son retour à New York, va faire, comme le demande la résolution du Conseil de sécurité 2147, au Conseil de sécurité. Actuellement, cette délégation poursuit ses visites, notamment par des rencontres au niveau politique, les parlementaires, les sénateurs, ici à Kinshasa. Naturellement, ces séances de consultation ont aussi concerné aussi bien la société civile que les agences, fonds et programmes des Nations Unies. Donc, c'est, pour tout dire, une revue complète qui est en train de se dérouler et qui va certainement avoir un impact, une influence sur l'avenir de la MONUSCO en République démocratique du Congo.